6h43 à Paris, 5h43 en temps universel. Tout de suite les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Marion.
Un crochet par Alger pour débuter ce journal avec ce samedi dans la capitale algérienne l'élection du président de l'ACNOA. On prononce comme ça, l'ACNOA, pardon, l'Association des Comités Nationaux Olympiques Africains.
Et sans suspense, l'actuel patron de l'Olympisme en Afrique va rester en poste. Moustapha Beraf, 71 ans, va empiler pour un troisième mandat à la tête de l'ACNOA. L'Assemblée Générale de l'organisation va le reconduire sans concurrence pour un nouveau mandat de 4 ans. De quoi le mener jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Un mandat durant lequel il compte mener à bien plusieurs projets d'envergure pour développer la pratique du haut niveau sportif sur le sol africain et sur le sol algérien et même sur le continent.
Nous avons dans l'esprit l'objectif de réaliser 4 centres de préparation régionaux en Afrique qui permettent un peu de mobiliser, de stabiliser les grandes figures et surtout les grands talents dont dispose l'Afrique. Il y a le programme OIE qui est un programme destiné aux jeunes déshérités en Afrique. Avec la FIFA, nous avons donc l'objectif de réaliser 50 terrains de football dans les centres Olympe Africa. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à une harmonie totale avec les institutions internationales que sont le CIO et l'ACNO. Il y a une très très bonne relation et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique est écoutée de manière très significative.
Moustapha Beraf avec Sofiane Anani, l'élection du président de l'ACNOA qui sera suivie de la cérémonie des African Olympics Awards, récompensant les meilleurs athlètes et entraîneurs africains.
Et le football africain, à présent, Mo Salah, encore un peu plus dans l'histoire.
Il n'aura jamais aussi bien porté son titre de pharaon. L'Égyptien survole la première ligue et vient de décrocher son 7e trophée de joueur du mois. De quoi lui permettre de rejoindre Kun Agüero et Harry Kane au palmarès et de dépasser Cristiano Ronaldo et Steven Gerrard, s'il vous plaît, qui avaient eux décroché 6 fois la récompense. Voilà qui consolera un peu Salah de son élimination de la Ligue des Champions par Paris cette semaine.
Paris qui, lui, survole la Ligue 1. Le PSG ne jouera que dimanche, mais la 26e journée se poursuit ce samedi.
Avec 3 rencontres au programme, Nantes face à Lille à 16h temps universel, Monaco contre Angers à 18h TU et puis Lens contre le Rennes d'Habib Bey, le technicien sénégalais qui a clairement sorti le club breton de son marasme. Mais s'il a conquis tout le monde, il se pose pas encore la question de la saison prochaine.
J'ai bien dit quand j'ai signé au Stade Rennais que mon avenir ne serait posé qu'à la fin des 34 journées et il n'en a aucun cas nécessaire ou il n'y a aucun cas une envie de ma part de discuter avant ça. La mission est claire, je veux aller au bout de cette mission-là et on aura le temps de s'asseoir lorsqu'on aura fait le travail comme on veut le faire. Il n'y a surtout pas de nécessité de le faire trop vite. J'en ai pas envie, je pense que le club vous diront les réponses qu'ils ont envie de vous donner, mais j'ai envie d'être focus sur l'équipe et la progression de l'équipe, il n'y a que ça qui m'intéresse aujourd'hui.
Lens-Rennes, coup d'envoi, 20h05, temps universel. Hier, Nice a été tenu en échec 1-1 par Auxerre.
Le journal des sports, pardon, signé Antoine Grenier, samedi 15 mars 2024, à la une de l'actualité.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanove.
Des dizaines de milliers de manifestants attendus aujourd'hui à Belgrade, en Serbie, mobilisation contre le pouvoir. Le pouvoir qui regroupe de son côté ses soutiens, l'ONU appelle les autorités à ne pas interférer indûment. La situation en Ukraine abordée aujourd'hui lors d'un sommet virtuel organisé par le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a accusé hier soir le président russe Vladimir Poutine de ne pas prendre la paix au sérieux. Vladimir Poutine, qui a eu un échange téléphonique avec Donald Trump, son homologue américain. Donald Trump l'a appelé à épargner la vie des soldats ukrainiens sur le front à Koursk. Au Proche-Orient, le Hamas se dit prêt à libérer un otage israélo-américain retenu à Gaza. La Maison-Blanche accuse le mouvement islamiste de gagner du temps, alors que les négociations pour prolonger la trêve patinent. Une nouvelle flambée de violence en Haïti. Des dizaines de familles fuyaient hier un quartier de Port-au-Prince, la capitale, face à de violents affrontements entre groupes armés. Cuba, privé de courant, le pays subit une panne généralisée. Nouveau signe de l'effondrement du système électrique et de la vétusté des usines. Et puis en rugby, la France, sans son capitaine Antoine Dupont, va tenter ce soir de remporter le tournoi Destination. Il faudra pour cela battre l'Écosse. Le coup d'envoi du match, c'est à 20h, temps universel. on feuillette à présent la presse internationale avec vous, Catherine Potet, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, les négociations pour la paix en Ukraine.
Négociations sur lesquelles les Européens entendent peser de tout leur poids. Le journal Die Welt nous dit en tout cas que les Européens veulent influencer les plans de Trump. Selon le quotidien allemand, des représentants allemands, britanniques et français ont été envoyés à Washington alors que le Premier ministre britannique, Keir Starmer, organise aujourd'hui une visioconférence de crise. Die Welt cite également des sources britanniques selon lesquelles une vingtaine d'États européens est prête à soutenir Kiev contre la guerre d'agression russe. Les Britanniques et les Français dirigent le groupe et veulent empêcher qu'un cessez-le-feu soit imposé à l'Ukraine, qui ne servirait que les intérêts de la Russie et ne tiendrait pas compte du fait que la Russie est l'agresseur. Les Européens exigent également que cette trêve aboutisse à une paix durable. Ils envisagent le déploiement d'une force internationale composée de soldats britanniques et français. C'est loin d'être gagné, comme le rappelle Die Welt. Poutine rejette catégoriquement le stationnement de troupes occidentales.
À la une également, une nouvelle affaire embarrassante pour le Parlement européen.
Une nouvelle affaire de corruption frappe le Parlement européen 2 ans après le Qatargate, titre Le Soir à Bruxelles. Le quotidien nous explique que la justice belge soupçonne que des lobbyistes travaillant pour Huawei ont corrompu des députés européens de 2021 à aujourd'hui afin de promouvoir la politique commerciale du géant chinois dans les cercles européens. Plusieurs lobbyistes ont été interpellés, mais à la différence du Qatargate, précise Le Soir, des valises bourrées de billets de banque ne sont pas en jeu. La corruption aurait été pratiquée très discrètement, sous couvert de lobbying commercial, et en prenant différentes formes comme des rémunérations de prise de position politique ou encore des cadeaux démesurés comme des frais de bouche, de voyage ou encore des invitations régulières à des matchs de football. Les bureaux de 2 assistants parlementaires ont été mis sous scellé, ajoute Le Soir, mais on ignore si ce sont eux qui sont visés ou bien les parlementaires pour lesquels ils travaillent. Voilà où on en est pour le moment. Huawei déclare de son côté pratiquer une tolérance zéro en matière de corruption, ce qui n'a pas empêché le Parlement européen de priver temporairement d'accès à ses bâtiments de Bruxelles et de Strasbourg tous les lobbyistes du groupe chinois. Car c'est là tout le paradoxe, les lobbyistes en tout genre ont bel et bien accès au Parlement européen, où ils sont les bienvenus, à condition de ne pas dépasser les limites imposées par la loi.
Aux États-Unis, à présent, l'administration Trump continue d'imprimer sa marque dans les institutions.
C'est le cas du célèbre cimetière d'Arlington en Virginie, cimetière militaire où sont enterrés plus de 290 000 anciens combattants. Or, les informations sur les militaires noirs et hispaniques et sur les femmes, explique le Washington Post, ont disparu de son site web. Disparition assumée par un porte-parole du cimetière, affirmant que ses responsables travaillent pour garantir que le contenu publié sur le site web soit conforme aux politiques de l'administration. Ce qui ne va pas de soi pour tout le monde, des historiens protestent. C'est le cas de Kevin M. Levin, historien de la guerre de sécession, qui estime la situation extrêmement regrettable. Car, dit-il, c'est exactement le genre d'histoire que nous souhaitons que les élèves apprennent. Une histoire qui permette aux élèves d'horizons différents de nouer un lien profond avec l'un de nos site sacré. Et l'historien ajoute, les gens pensent qu'on pourra en quelques clics remettre ces sites en état, mais je pense que nous allons avoir un réveil brutal en réalisant tout ce que nous risquons de perdre en termes de travail accompli et de confiance bâtie au fil des ans.
La revue de presse internationale signée Catherine Potet.
RFI Matin.
La semaine de Jean-Baptiste Placa. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Marion Casanova.
Semaine marquée par la tournée du président ghanéen John Dramani Mahama dans les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il devait les convaincre de retourner dans la CEDEAO, mais a surtout appelé à une reconnaissance de l'AES par la CEDEAO. Jean-Baptiste, a-t-il une chance d'être entendu, le président ghanéen ?
Dans cette communauté où certains chefs d'État ont une fâcheuse tendance à faire prévaloir leur agenda personnel sur les principes et objectifs communs, d'une manière ou d'une autre, il sera entendu. À quelques semaines de son demi-siècle d'existence, la CEDEAO pouvait espérer mieux que cette confusion, cette cacophonie. À la veille de sa tournée sahélienne, le dirigeant ghanéen avait reçu à Abidjan la bénédiction de son homologue ivoirien pour une ultime main tendue au pays frère visiblement dans l'impasse. Le président Ouattara s'attendait-il à ce que John Dramani Mahama, interlocuteur nouveau et théoriquement neutre, déploie plutôt une stratégie personnelle dans le seul intérêt du Ghana ? Probablement pas. Mais comment oublier que cet homme a déjà perdu le pouvoir pour ses contre-performances économiques et la chute vertigineuse du Sidi, la monnaie ghanéenne. Comme si cette cour maladroite qu'il fait aux pays enclavés découlait d'une envie irrépressible de mieux réussir cette fois en économie.
Le président du Ghana est-il capable de sacrifier ainsi les règles et les principes de la CEDEAO dans l'intérêt de son seul pays ?
Aujourd'hui, tous les dirigeants peuvent tout sacrifier à l'économie. Le tort de la CEDEAO a été de brandir les menaces et de déclencher les sanctions contre les putschistes de l'Interland sans en avoir mesuré les conséquences pour leurs voisins côtiers. Exportateurs de matières premières, les États du Sahel sont surtout importateurs d'une multitude de produits arrivant par l'océan et pesant lourd dans le chiffre d'affaires des installations portuaires du golfe de Guinée, tout comme la petite économie des centaines de localités traversées jusqu'aux frontières du Burkina, du Mali et du Niger, transitaires et transporteurs routiers des pays de transit en profitent. Tous risquaient gros et ont partout beaucoup perdu, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Nigeria. Seul le Togo a ramassé la mise dans cette crise de la gestion des putsch par la CEDEAO, qui aura au moins montré l'intérêt d'une communauté économique, l'utilité d'une union douanière. Pour le reste, sacrifier ces principes pour des gains économiques vous expose souvent au discrédit, sans même vous garantir les parts de marché convoitées.
Alors faut-il craindre, Jean-Baptiste, des conséquences pour la CEDEAO et pour John Dramani Mahama lui-même ?
En faisant passer les putschistes pour des victimes innocentes, le dirigeant ghanéen a passablement terni l'image déjà dégradée d'une CEDEAO qui n'a fait qu'appliquer ses textes. Certes, elle n'a pas toujours montré le même zèle dans d'autres cas similaires, mais président d'une des démocraties les plus fiables d'Afrique, John Dramani Mahama ne pouvait s'autoriser cette apologie de fait comme si la baïonnette pouvait se substituer au bulletin de vote. Comme si cette épidémie de putsch n'affectait pas la crédibilité de cette communauté économique scrutée par les marchés financiers. Cela est d'autant plus désastreux que ce qui se joue ici est la signature des États, y compris celle du Ghana, qui n'a pourtant plus connu de coup d'État depuis 44 ans. Pour avoir tour à tour connu le pouvoir et l'opposition, alterné échec et victoire par la seule volonté des électeurs, John Dramani Mahama n'avait pas le droit de se muer ainsi en chantre des putschistes. Et même s'il devait en tomber amoureux, lui qui doit ses premières responsabilités politiques à Jerry John Rawlings devrait savoir distinguer les putschistes aux idées claires, capables de porter leur patrie sur la rampe de la démocratie et du développement, des aventuriers qui s'emparent du pouvoir avant de commencer à improviser un avenir pour eux plutôt que pour leur peuple.
La semaine de Jean-Baptiste Placard. 6h56 à Paris. Dans quelques minutes, c'est le retour de l'actualité internationale. Avant, on fait un tour dans la playlist musicale de RFI. On écoute Seliawa et son titre « Démounage ». We'll be right back.
prendre des faits. Bisous à l'imie avancée. De loin ça parfume. Oh là là, j'en passe. Vous autres, nous c'est ta Chine. Ton parole maquillée.
Démounage, un extrait du premier album de la chanteuse guadeloupéenne Célia Wa, titre que vous retrouvez dans notre playlist du mois sur RFI. Dans une minute, le journal.
Tout à l'heure sur RFI, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
Il est l'un des 5 candidats à la présidence de la Banque africaine de développement. Amadou Hott, ancien ministre de l'économie du Sénégal, détaille son programme, commente les grands enjeux de financement sur le continent et la nouvelle donne internationale.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Né à Accra au Ghana en 1980, le chanteur Mai Sanko a une obsession, faire paraître 15 albums avant ses 60 ans. Let It Unfold est son 5e disque. Parviendra-t-il à atteindre son but ? En attendant, ce maestro de l'art vocal s'épanouit dans plusieurs univers musicaux, de la pop soul au jazz de tradition américaine. Il sera bientôt en concert à Paris et dès ce week-end avec Joe Farmer dans l'épopée des musiques noires, tout à l'heure à 13h30 TU.
RFI.